Nos rivières ont besoin d'être protégées. Mais comment y arriver si on les oublie ? Les humains vivent parfois au bord des cours d'eau, mais sans y penser. Ils puisent leurs eaux sans les regarder. Pour retisser les liens entre les rivières et nous, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et la région Bretagne ont lancé en 2021 l'Atlas socioculturel du Belon. D'autres ont suivi le Lapic, le Léguerre, les Marais de Vilaine, la Rade de l'Orient avec le Scorff, le Blavet et le Terre, et enfin la Rance. Ce sont ces démarches que vous propose de découvrir ce podcast.
Bonjour à toutes et à tous. Quels sont dans les rivières de Bretagne les principaux défis pour assurer une bonne qualité de l'eau nécessaire aux différents usages ? Il y a parfois ce que l'on appelle des conflits d'usage par rapport à la qualité de l'eau de ces rivières. Et c'est le cas dans la Rade de l'Orient, où se jettent le Scorff, le Blavet et le Terre. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Maëlle Thuriès, chargée de mission mer et littoral à Eaux et Rivières de Bretagne. Mais avant, direction la Rade de l'Orient, qui a bénéficié depuis 2023 d'un atlas socioculturel porté par l'artiste Kizzy Sokombé et soutenu par l'Orient Agglomération. Dans ce reportage sur le terrain signé Garance Diaconu de Radio Balise, partons à la rencontre des usagers de la rade.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits en France où on voit ça. Hein. Où on voit un bateau-bus qui traverse avec des militaires qui s'entraînent, des commandos super secrets qui s'entraînent devant tout le monde. Ça fait une demi-heure qu'on est là, on voit, là il y a 3 bateaux de commando marine, il y a le bateau-bus, il y a les gars derrière nous qui entretiennent l'espace naturel du fort, il y a des plaisanciers, il y a des gens, probablement il y a peut-être des plongeurs qu'on ne voit pas, il y a des pêcheurs qui ont dû revenir ce matin de la pêche, il y a des gens qui vont traverser, enfin il se passe plein de choses en fait ici, c'est un petit Bosphore quoi. Bon, on commente les hélicoptères, mais on pourrait aussi commenter le vol des... J'en vois pas beaucoup aujourd'hui, le vol des oiseaux... Tiens, regarde, ça c'est très intéressant, regarde. En même moment, on a l'hélicoptère et un groupe d'oiseaux, peut-être des tournepierres à collier, sur fond de campagne, avec un peu de bocage, des champs et l'estuaire qui fait son angle droit, là.
C'est qui t'intéresse à leur mythologie ? Je ne sais pas. Il y a en ce moment un extraordinaire oiseau qui séjourne sur les estuaires du Blavet et du Scorff. Il y en a un sur chaque. C'est le Balbuzard Pêchali.
Les usagers de la rade, c'est d'abord les bestioles qui y vivent.
Jean-Pierre Ferrand habite à Hennebon, au nord de l'Orient Agglomération. Depuis qu'il est adolescent, il observe, posté sur les rives du Blavet, l'évolution du cours d'eau. Il a participé à de nombreux ateliers organisés par Kizzy Sokombé dans le cadre de l'Atlas socioculturel de la rade.
Moi, j'ai connu une époque où la laiterie de Pont-Scorff rejetait ses produits laitiers directement dans le Scorff. À l'époque où les forges d'Hennebon fonctionnaient, on avait un Blavet qui était devenu un véritable cloaque, surchargé en rejet de produits industriels, sans parler de rejet d'ailleurs d'eau usée, etc. Les saumons ne remontaient plus dans le Blavet. Le Blavet, dans les années 50 jusqu'aux années 60, était devenu une rivière morte. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai eu le plaisir, il y a quelques années, de voir revenir les loutres, par exemple, dans le Blavet. Alors aujourd'hui, il y a des nouveaux problèmes qui sont apparus. On a effectivement des problèmes de surfertilisation des eaux de la rade par les activités agricoles intensives, avec les prolifération d'algues vertes. On a ces problèmes également de métaux lourds, j'en parlais tout à l'heure, mais qui sont l'héritage de... C'est le produit de l'accumulation de situations anciennes.
Il y a cette idée qu'on vit dans un... qu'on a un trésor, en fait, qu'on vit autour d'un trésor qu'est la rade, que sont les coureaux, la petite mer de Guèvre, etc. Qu'on en profite tous les jours, qu'on en a... ou qu'on en prend conscience en parlant, en l'exprimant, qu'on veut le faire savoir, mais qu'en même temps, on veut le protéger.
Thomas Chiron travaille à Lorient Agglomération. Il est responsable de la mission maritime. Il a accompagné Kizis Okombe dans la production de l'atlas socioculturel de la Rade.
Du côté de Lorient Agglomération, la vision des habitants, des gens qui vivent le territoire, nous intéressait vraiment. Et on a saisi cette occasion pour accompagner Kizi ou lui permettre en fait d'aller chercher des fonds auprès de la région au titre de Lorient Agglomération, mais juste en portage de son projet personnel. Et donc ce témoignage ou ces témoignages des habitants du territoire vont nous permettre aussi d'illustrer comment les gens vivent le territoire, ce qu'ils en attendent. Ce qu'ils attendent de la rade, de ces aménagements, porter une vision qui ne soit pas qu'économique sur la maritimité du territoire. C'est vraiment de se dire, on va, grâce à ça, alimenter les documents de planification, d'urbanisme par exemple, ou même des études d'impact qu'on peut avoir à mener sur une extension portuaire par exemple.
Lorient Agglomération est amené à produire des études sur la qualité des eaux de la Rade. Thomas Chiron identifie trois types de pollutions présentes dans celle-ci. Elles sont directement liées à l'activité humaine.
Les pollutions par les matières fécales et qui viennent contaminer, entre autres choses, les coquillages. Donc là, il y a des gros enjeux sur la conchyliculture notamment et sur la pêche à pied, puisque on peut s'intoxiquer quand il y a de l'Escherichia coli dans les coquillages. Possiblement généré par des débordements de stations d'épuration. Donc ça, c'est regardé de très près. Il y a les pollutions chimiques, plus globales, avec les intrants qui peuvent être liés soit à l'agriculture, avec les pesticides, etc., mais pas que. L'industrie, bien évidemment. Alors moi, je maîtrise que ces deux points-là. Le troisième, ça peut... Peut-être un peu sur les perturbateurs endocriniens aussi. Alors là, on rejoint un peu les milieux chimiques. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qui est regardé de très près. La préservation des milieux aquatiques, des zones humides, conjuguée à la gestion des eaux usées et pluviales, ça permet de préserver la qualité de l'eau. Et ça, ça fait partie des compétences obligatoires et majeures de Lorient Agglomération.
Ce son que vous entendez, c'est ce qu'un micro capte lorsqu'il est plongé dans la Rade de Lorient. Il a été enregistré par le bureau d'études Marais pour Lorient Agglomération. Impossible en journée d'entendre d'autres sons que celui des bateaux. Dans la Rade de Lorient, le trafic maritime est tellement dense qu'il écrase tous les autres sons. Il faut donc attendre la nuit pour écouter ce produit par la biodiversité sous-marine.
Ah si, il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est plonger. C'est super intéressant parce qu'il y a plein de choses. Des épaves, des objets tombés à l'eau. Puis aussi toute la biodiversité. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a des hippocampes dans la Rade de Lorient. Il y a plein d'hippocampes en fait. En été, quand on se met sur le port de Sainte-Catherine et qu'on regarde l'eau, si on se met juste sur le ponton, là, des fois, moi ça m'est arrivé de voir des hippocampes. Il y a un truc qu'on voit pas, enfin que peu de gens voient et dont moi j'ai pris conscience en faisant l'Atlas. Je vais le dire de manière un peu grossière, mais la rade, en fait, elle sort de ton robinet. Quand tu habites dans le pays de l'Orient, même un peu plus haut, quand tu bois de l'eau, en fait, tu bois l'eau de tes rivières. À 70% quasiment. Et notamment en 2022, quand il a fait super chaud, qu'on était en limite de rupture de stock d'eau, on a pu avoir de l'eau grâce à l'ouverture du barrage de Guerlédan. Donc en fait, la rade et ses rivières, elles sont chez nous, elles sont dans nos robinets. Ça a changé ma vision en fait de l'endroit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, j'ai quasiment un devoir de... C'est presque un devoir moral, en fait. Je me sens dans l'obligation d'honorer ces rivières, ces fleuves qui nous donnent de l'eau, quoi. Et c'est eux qui font que... on peut boire de l'eau, se doucher, arroser nos champs, manger, enfin voilà. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu là-dessus, quoi.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur les usagers de la rade de l'Orient, signé Garance Diaconu de Radio Balise, votre radio associative locale du pays de l'Orient, Auray et Quimperlé. Alors, comment concilier qualité de l'eau et ses différents usages? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maëlle Turiès, chargée de mission mer et littoral à Eau-et-Rivière de Bretagne, association régionale de défense et de protection de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, association bien évidemment fortement impliquée dans ces atlas socioculturels des rivières de Bretagne. Bonjour Maëlle Turiès.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre ? Est-ce qu'il fait bien le tour des différents usages de la rade de l'Orient ?
Sur ce reportage, on a bien entendu un beau panel de diversifiés. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est à la fin, on entend voilà, la signature acoustique de la rade de l'Orient quand il y a les usages des humains. Et donc, on entend quelque chose de très bruyant. Voilà. Et puis, par la suite, on a aussi la signature acoustique du milieu de lui-même, en fait, du milieu des autres habitants, des non-humains, qui sont donc sous l'eau, qui font eux-mêmes aussi un son. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, ils produisent des sons. Et moi, ce qui me marque, en fait, c'est que ben voilà, nos sons sont tellement volumineux qu'ils couvrent ceux du vivant. Et ça, voilà, ça montre quelque chose de notre société. C'est-à-dire que maintenant, on a des sociétés qui sont extrêmement bruyantes, parce que très motorisées. Et donc, nous nous imposons aux vivants. On les couvre. On couvre la voix du vivant. Et là, voilà, en fait, quand on prend la définition voilà, du développement durable... Eh bien, ça montre qu'on est quand même déjà en dehors des clous. C'est-à-dire qu'on ne vit pas avec le milieu, on vit sur le milieu et on se l'accapare.
Alors, Maëlle Turiès, pour bien comprendre la rade de l'Orient, qu'est-ce qu'on peut dire géographiquement parlant ? C'est plusieurs rivières qui s'y jettent.
Oui, la rade, c'est un estuaire qui reçoit, voilà, qui est la fin de plusieurs rivières. Donc, on a les deux plus importants, qui sont le Blavet et le Scorff. Et puis, on a des petits ruisseaux côtiers, comme ça, qui sont le Terre, le Plessis, et puis, un petit peu plus encore à l'est, le Rian, qui est donc un affluent de la petite mer de Gavre. Tout cela, ensemble, forme un même milieu, un même écosystème qui fonctionne ensemble. Voilà, ces deux gros fleuves, plus les petits cours d'eau côtiers, avec la mer de Gavre, ils sont tous ensemble connectés sur la rade de l'Orient.
Alors, si on parle d'abord de qualité des eaux, on parlera peut-être de quantité des eaux, mais de qualité des eaux dans la rade de l'Orient. Quelle est la situation actuelle, Maëlle Turiès ?
On a entendu dans le reportage voilà, une situation des usages passés qui ont été plus ou moins résorbés, qui parfois pour des usages qui ont périclité, je pense aux forges. Il y avait une personne qui parlait des laiteries, qui parlait des assainissements, que les choses sont quand même améliorées. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a des polluants qui sont toujours présents en nombre important et des situations qui ne se sont pas vraiment résorbées. Et puis on on a aussi des menaces hein, pour des nouveaux usages qui eux-mêmes seront porteurs de dégradation de la qualité de l'eau. Alors si on parle voilà, de la bactériologie, de la microbio, des assainissements donc, et des effluents, bon, si vous voulez, là on a eu la restitution du profil de vulnérabilité conchylicole de la rade de Lorient, voilà, sur 40 points de mesure de la bactério dans la rade de Lorient, petite mer de Gave comprise, eh bien, si vous voulez, tous les voyants sont rouges, oranges, donc on est dans des valeurs très très dégradées. Donc question microbiologie, c'est toujours pas très très bon. Il y a quand même toujours des efforts à faire, malgré les stations d'épuration qui, voilà, qui ont fleuri, malgré même le port de pêche, hein, qui a une nouvelle station de traitement des eaux qu'il n'y avait pas auparavant. On a aussi quand même une pression importante liée aux industries.
Militaires notamment.
Militaires notamment, tout à fait. Et là, on n'a pas vraiment d'accès aux informations. On sait qu'il y a des rejets, on sait qu'il y a des métaux lourds. Quand on regarde le dossier du dragage des boues de la rade de Lorient, c'est compliqué. Parfois un peu opaque quand même, on peut le dire. On a eu la situation avec les moules de Groix, avec un système de dégrappage comme ça, un peu très très étonnant qui a mis en péril d'ailleurs l'entreprise hein, Mutilicule de production de moules, quoi. On a aussi sur le territoire de la rade de Lorient une situation très dégradée au regard des algues vertes. C'est-à-dire qu'on a un gazon voilà, qui persiste tout au long de l'année. Je dirais maintenant qu'il fait partie de la représentation de la rade. Malheureusement, c'est bien une pollution. Malheureusement, c'est bien le signe d'une dégradation du milieu, d'un déséquilibre, d'un apport trop important en nutriments et notamment des nitrates qui lui-même est la signe d'une pollution liée à l'agriculture intensive. Et si vous voulez, tous ces polluants vont potentiellement être exacerbés par le changement climatique. Là, tout à l'heure, vous parliez de quantité d'eau. Voilà, quand on a des périodes où les pluies sont plus réduites, notamment l'été, avec des étiages plus sévères, eh bien, voilà, le flux va être beaucoup plus réduit. Hein, si vous voulez, les cours d'eau vont être beaucoup plus réduits, les débits. Mais par contre, ils vont être chargés. Et là, en dépollution, pour faire de l'eau potable, les choses vont être plus délicates, plus coûteuses potentiellement aussi.
Il y a aussi nos usages, nous, qui habitons peut-être près d'une rivière, près d'une rade, comme celle de Lorient. Voilà, est-ce qu'il y a aussi l'usage de tout à chacun dans justement le fait de pas trop s'interroger d'où vient notre eau potable et puis aussi nos toilettes aussi, tout ce qu'on peut amener aussi dans ces rivières. Est-ce que ça aussi, ça contribue à affecter clairement cette qualité de l'eau, par exemple, de cette rade de Lorient ?
La situation des assainissements, donc voilà, de quand on utilise l'eau, dès qu'on a ouvert le robinet, cette eau, elle part en traitement. Elle est chargée de plein de choses. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'industrie et l'agriculture qui est porteuse de polluants, mais effectivement, les eaux domestiques, on appelle ça comme ça, elles sont aussi chargées de tout un tas de choses et qui donc sont amenées à être traitées en station d'épuration. Si vous voulez, ça pose la question de l'usage de l'eau pour tous nos besoins à la maison. Voilà, utiliser l'eau encore pour le transport de nos effluents, hein, de nos toilettes, ça pose question. C'est-à-dire que ça a été une évolution de société qui a été géniale pour nous sortir d'une situation insalubre hein, du 19e siècle. Maintenant, au 21e siècle, vu le nombre que l'on est et vu les besoins en eau que nous avons, du coup, eh bien, c'est vrai que la question des toilettes sèches peut se poser et que à ce sujet-là, les pouvoirs publics peuvent vraiment ont une carte à jouer, très honnêtement là-dessus. Voilà, l'eau de nos toilettes, c'est un cinquième, 20% de nos besoins en eau.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui expliquent ces problématiques de qualité de l'eau, notamment dans la façon dont on a utilisé ces rivières, remodelé aussi ces rivières, j'imagine ?
Oui, les rivières ont été le milieu qui a été probablement le plus modifié sur nos 50 dernières années. On a bien en tête le bocage qui a été, voilà, avec le remembrement, entre guillemets, très très sacrifié, qui continue quand même à être arraché, machin, malgré des programmes de replantation type Bresse-Bocage. Les cours d'eau ont eux-mêmes subi ce remembrement et les modifications de l'agriculture intensive, mais même de l'urbanisation, parce qu'en fait, on a beaucoup de cours d'eau qui sont sous nos rues. Qui sont totalement canalisés. En milieu rural, en fait, les cours d'eau ont été tirés au droit, on appelle ça la rectification, comme si c'était une erreur, mais non, ils avaient un fonctionnement avec des virages. Et donc, si vous voulez, un cours d'eau qui fonctionne naturellement, qui a sa morphologie d'origine, est un cours d'eau qui fonctionne, qui arrive à avoir une fonction auto-épurative hyper intéressante. Et du coup, étant modifié, beaucoup modifié, on perd de cette qualité gratuite, hein, de fonction auto-épuratrice du milieu.
Alors vous le disiez tout à l'heure, Malthurias, finalement, on l'a bien compris, on arrive à un point limite de nos usages sur les rivières. On a plein d'usages sur la rade de l'Orient, mais là, on est peut-être à un point limite. Comment pourrait-on travailler les choses, finalement, pour concilier ces différents usages et pour obtenir quand même une qualité d'eau satisfaisante dans nos rivières ou dans nos estuaires ou dans nos rades? Soupir.
Oui. Non.
Travail. Beaucoup de travail.
Non, beaucoup de travail, mais potentiellement, voilà, la ressource en eau, elle est limitée. Et je pense que la sécheresse de 2022 l'a fait toucher du doigt, notamment auprès de nos décideurs. C'est ce qui fait que depuis 2022, on a en commission locale de l'eau sur le Blavet l'engagement des élus, hein, qui ont voté la mise en place d'une étude qu'on appelle HMUC, hydrologie, milieu, usage et climat. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de voir sur ce territoire du bassin versant du Blavet quelle est la ressource en eau dont on pourrait disposer avec le régime des pluies qui va être modifié avec le changement climatique et tout, et mettre cela en regard avec nos besoins actuels. Et on va pouvoir connaître quels sont les volumes que l'on peut prélever dans le milieu et pour quels usages. On va avoir de ce fait une idée de, ben voilà, du gâteau aquatique, hein, du gâteau de l'eau dont on pourra disposer. Et ça va nous conduire à faire des choix, c'est-à-dire que nos élus, mais l'État aussi, nos décideurs vont avoir clairement en tête que, voilà, on a tant de volume d'eau pour tous nos usages agricoles, industriels, domestiques, et qu'on n'aura pas plus. Et que accueillir une nouvelle activité qui serait très gourmande en eau, par exemple, ne serait pas raisonnable. Je pense au projet minier, par exemple, qui est une industrie d'extraction minière qui demande beaucoup d'eau pour extraire les milligrammes d'or ou d'autres petites choses, plus ou moins pas trop nécessaires. Voilà.
Donc c'est de la réglementation, c'est de la coercition, on interdit de...
Oui, il y a l'idée de limiter et de contraindre les opérateurs économiques. Je pense par exemple aussi aux grandes industries qui sont sous le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, et dans leur règlement, dans leur autorisation d'exploiter délivrée par l'État, il y a bien des prescriptions à la fois pour leur traitement d'eau, leur système de traitement d'eau, mais aussi sur leur prélèvement. Et donc ils sont limités, et c'est vrai que ça, c'est une coercition, c'est bien du réglementaire, et c'est bien l'État qui est à la manœuvre et qui doit jouer ce rôle-là peut-être de façon même un petit peu plus sévère, parce que jusqu'à présent on arrive toujours à voir des demandes de dérogation qui sont quasi systématiquement accordées, et on ne pourra plus faire tout cela.
Alors ça, c'est du côté peut-être des activités, des industriels, des agriculteurs, enfin, de ceux en tout cas qui exploitent d'une certaine façon les abords ou l'eau des rivières. Du côté des usagers, on en parlait déjà tout à l'heure un petit peu, bon, il y a cet atlas socioculturel des rivières de Bretagne qui a été lancé sur différentes rivières de notre région. Est-ce que voilà, vous avez reconnecté des personnes qui habitent aux abords de cette rivière à l'eau et au bassin versant, et du coup à cette envie de la protéger?
La démarche des atlas, je pense que c'est
un chemin long.
Un chemin long, très long.
Très long.
Et effectivement, et pour la première raison, c'est que finalement, l'accès à l'eau est trop facile. Et du coup, entre guillemets, les gens, de fait, sont éloignés de cette ressource en se levant le matin, qui sait vraiment, quand il prend ou elle prend sa douche, ah tiens, cette eau-là, mais en fait, c'était celle qui a, peut-être la nuit dernière, avant son traitement, était coulée dans le scorf ou coulée dans le blavet. C'est ça, en fait, si vous voulez, la démarche des Atlas, c'est cette idée d'avoir cette conscience-là, et donc, en ayant cette conscience-là, de se préoccuper de son soin, c'est-à-dire de soigner l'eau, de faire attention, à dire, ben non, là, je peux pas faire cet usage-là en plus, parce que ça viendrait mettre en péril ou trop salir cette ressource précieuse, voilà, cet élément qui est si précieux. Parce que dans le discours des gens, on a très vite l'eau, ah oui, mais l'eau, c'est la vie. Et une fois que la personne a dit l'eau, c'est la vie, il y a un petit blanc entre, oui, mais l'eau que vous avez là entre les mains, qu'est-ce que c'est cette eau-là? Elle est d'où? Bon, et donc, il y a ce décalage entre la théorie d'avoir en conscience qu'effectivement, l'eau, c'est la vie, parce que, bon, voilà, il y a une culture, justement, assez suffisante, une culture scientifique assez suffisante pour que chacun se dise, bah ouais, sans eau, on crève, quoi. Mais après, concrètement, dans la matérialité de l'eau et dans la matérialité du territoire, son eau, d'où elle vient, comment elle par où elle passe, et jusqu'où elle est limitée, et qu'est-ce qui vient la menacer, là, c'est déjà, on a beaucoup de pertes en ligne. Et le travail de la culture de l'eau, et c'est vraiment un chemin long. Il y a des programmes, notamment scolaires, avec Lorient Aglo, c'est historique ici, sur le territoire, mais même partout en Bretagne, comme on a d'ailleurs des équipes d'éducation qui font un travail remarquable. Mais après, il y a les adultes, une fois qu'ils sont repartis, derrière, on se raccroche à une vie matérielle dont on a besoin, on est biberonné à cet épanouissement matériel qui nous enlève de la tête, qui nous empêche quelque part de s'émerveiller de ces choses naturelles qui sont proches de nous et dont, en fait, on est tributaire, quoi. Je veux dire, c'est hyper trivial, en réalité, quoi. Culturellement, le jour où ça nous fera horreur, au fond de nous, de mettre une rivière dans un canal qui traverserait une ville de façon souterraine, que ça nous fasse horreur, c'est-à-dire qu'on dit « non, mais là, c'est pas possible », là, on aura gagné une vraie bataille culturelle.
Mais on parlerait des heures avec vous de ce sujet, tellement c'est passionnant et intéressant. Est-ce qu'on peut peut-être donner à nos auditrices et auditeurs, au-delà de cet entretien qui est forcément limité par son format, peut-être des références utiles pour approfondir cette question absolument fondamentale des usages et de la qualité de l'eau, comment les concilier dans la rade de Lorient, mais bien au-delà, dans nos rivières de Bretagne ou ailleurs?
Alors, je recommanderais pour les personnes qui aiment bien suivre des petites conférences en format court, webinaire, il y a une heure à peu près tous les mois, qui sont données par le CRESEB. Le CRESEB, donc, c'est un institut de recherche eau en Bretagne et qui met en lien tous les programmes scientifiques qui sont conduits sur la question de l'eau. Donc, il y a la gouvernance, mais il y a aussi les suivis, qualité d'eau. Donc, très intéressant. On a aussi une belle association en Bretagne qui s'appelle l'Association Bretonne de la Pêche à la Mouche, qui édite des revues magnifiques, honnêtement, sur toutes nos rivières. Donc là aussi, vous avez de quoi vous documenter. Dans le même ordre, eh bien, je vous inviterai à vous rapprocher de votre association de pêche locale, la PPMA, et de faire une sortie de pêche avec eux. Parce que là, vous allez voir qu'il y a des poissons dans l'eau, et que l'eau, c'est pas juste un truc qui est dans un tuyau, mais qu'en réalité, c'est un milieu de vie extraordinaire.
Maëlle Turiès, merci beaucoup.
Merci.
Je rappelle que vous êtes chargée de mission mer et littoral à Eau et Rivière de Bretagne. Le site internet d'Eau et Rivière de Bretagne, eau-et-rivière.org. Rendez-vous également sur le site raddelorient.atlas-rivière.com où vous retrouverez cet atlas socioculturel de la Rade de Lorient avec la parole des habitants, des cartographies, des graphiques, des audios, des photos sur le travail en cours sur cette fameuse Rade de Lorient. Et puis vous retrouverez cet épisode en podcast sur le site corlab.org. À bientôt pour un nouvel épisode de Rivière ici consacré aux atlas socioculturels des rivières de Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de vos cours d'eau.
C'était Rives et Récits, une série de podcasts proposés par les radios de la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec Eaux et Rivières de Bretagne, l'Office français de la biodiversité et la région Bretagne.